France Bleu, RCFM. France Bleu. RCFM, Christine Alouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts. Bon mercredi à tous, mercredi 11 décembre. On parle ce mercredi des personnalités difficiles. Est-ce qu'une personnalité difficile est forcément une personnalité toxique? Quand est-ce qu'il faut composer? Quand est-ce qu'il faut fuir? Tony est avec moi à la technique. Carole est au standard pour vous accueillir, pour répondre à toutes vos questions. On va jouer aussi ce matin au calendrier de l'Avent. Je sais que vous l'attendez tous. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir participer avec nous ce matin en direct, vous pouvez bien sûr aller et jouer sur notre compte Instagram.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Alouzi.
Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie ça va.
Ça vient Slimane et Vita.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
L'anxieux qui voit harcèle, le paranoïaque qui prend tout comme une offense, l'obsessionnel qui se perd dans les détails au détriment de l'essentiel, le narcissique qui tire la couverture à lui, le dépressif qui vous accable de son inertie, le type A pour qui rien ne va jamais assez vite. Tous perturbent votre vie quotidienne, au travail, à la maison, en famille. Et ce matin, on va essayer de vous éclairer sur ces personnalités difficiles. Comment on les gère? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on essaye de composer? Avec moi ce matin, un expert, et quel expert? François Lelore, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et vous avez écrit avec, co-écrit avec Christophe André, Comment gérer les personnalités difficiles aux éditions Odile Jacob. Donc oui, vous êtes la personne qu'il faut ce matin.
Écoutez, je vais essayer d'une personnalité facile.
Voilà, c'est la personnalité facile qu'il nous fallait ce matin pour parler de ces personnalités difficiles, voire toxiques. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une personnalité difficile ?
Eh bien, disons, une personnalité difficile, c'est quelqu'un qui vous fatigue plus que normal. C'est-à-dire, au fond, on peut avoir des situations de conflits ou de problèmes à résoudre ou avec quelqu'un, mais quand on en sort, disons, plus fatigué que de mériter la situation, on se dit, tiens, c'est peut-être une personnalité difficile. Mais pour dire que c'est une personnalité, il y a quand même deux grands critères. La première, c'est que cette personnalité est également difficile pour pas mal de monde, pas que pour vous, parce qu'autrement, c'est simplement que vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est pas qu'il a une personnalité difficile. Donc, il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui soient du même avis que vous, et puis aussi que ça soit durable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est considéré comme difficile depuis pas mal de temps. Parce que là aussi, si c'est momentané, ça peut être quelqu'un de stressé par une situation dont tout le monde peut avoir des moments difficiles. Donc vraiment, c'est important avant de dire quelqu'un que c'est une personnalité difficile, c'est est-ce que d'autres personnes sont du même avis ? Et deuxièmement, est-ce que ça dure quand même depuis longtemps ? Est-ce qu'il a un peu toujours été comme ça ?
Alors en tant que psychiatre et psychothérapeute, vous êtes habitué à écouter à vos patients, vous confier les difficultés qu'ils peuvent éprouver dans leur vie affective ou professionnelle ou autre. Qu'est-ce que vous constatez le plus souvent ? Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Ben, pour ce qui est des personnalités, ben, c'est des gens, si vous voulez, qui décrivent, alors ça dépend un peu des profils, par exemple, qui décrivent qu'ils ont un conjoint, par exemple, trop dépendant d'eux, qui n'arrive pas à qui ils essaient d'expliquer qu'il faut que le conjoint se débrouille un petit peu tout seul, qui ne compte pas que sur eux, et qui ont beaucoup de mal. Ça, c'est par exemple le cas d'une personnalité donc qu'on appelle dépendante, des gens en général qui ont peu de confiance en eux et qui se reposent toujours sur les autres, et qui ont aussi parfois tendance d'ailleurs à accepter n'importe quelle corvée parce qu'ils ont un peu crainte, ils craignent toujours d'être abandonnés. Mais ça peut être aussi dans un genre personnel plus toxique, on va dire, par exemple d'avoir un patron un petit peu une personnalité de type A, c'est-à-dire toujours stressé, toujours sur les nerfs, et parfois avec un petit peu de paranoïa, c'est-à-dire quelqu'un de pas capable de faire confiance, qui est toujours en train de vérifier, qui est soupçonneux, etc., et qui crée évidemment une ambiance détestable.
Vous faites aussi vous êtes consultant aussi auprès d'entreprises sur les thèmes de la gestion du stress et de la psychologie du changement, etc. Est-ce que c'est une préoccupation pour ces salariés à tous les niveaux de la hiérarchie de composer justement avec une personnalité difficile, que ce soit un patron, que ce soit un collègue, un collaborateur?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un degré de personnalité difficile, c'est qu'on a tous un petit côté un peu plus marqué. L'humanité est variée. Les personnalités, ça fait partie de la biodiversité, même les personnalités difficiles. Et après, c'est une question d'intensité, si vous voulez. Par exemple, ce qu'on appelle les personnalités de type obsessionnel, ce sont des gens très très méticuleux, parfois qui ont tendance à penser qu'ils ont raison parce qu'ils trouvent qu'ils travaillent mieux que les autres, qu'ils vérifient tout, qui en général sont assez consciencieux, mais l'inconvénient parfois c'est qu'ils ne voient pas, comme on dit, l'image d'ensemble, ils sont un peu trop centrés sur la tâche. Mais ça peut être de grande qualité dans certaines fonctions. Par exemple, bien c'est sûr. Assez courant que des gens un petit peu obsessionnels se retrouvent dans la comptabilité, dans tout le travail où il faut vraiment vérifier, il faut que tout soit parfait. Eh bien, c'est, à l'entreprise de savoir, où, en quelque sorte, bien mettre les gens. De même que la personnalité dite narcissique, mais encore à tendance narcissique, ce sont des gens, en général, qui ont une très grande confiance en eux, qui ont soif d'admiration, pensent qu'effectivement ils peuvent réussir n'importe quoi et qui méritent aussi plus que les autres, donc ils vont être très exigeants en termes de rémunération et surtout d'admiration. Eh bien, parlons souvent, ça peut faire un très bon commercial. Quand c'est dans certaines limites, vous voyez, il y a une gradation entre une personnalité dite moyenne, normale, sont très particuliers, une personnalité difficile, c'est-à-dire qui parfois peut... Il va falloir le gérer, il va falloir faire attention. Et puis alors, les personnalités qui ont vraiment ce qu'on appelle un trouble de personnalité, où là, c'est tellement fort que ce sont des gens qui vont avoir du mal à fonctionner avec les autres.
Donc clairement, on peut dire que vraiment une personnalité devient difficile quand vraiment certains traits de son caractère sont trop marqués, trop fusés, ou vraiment inadaptés aux situations.
Voilà. Alors, cela dit, par exemple, et puis ça dépend des autres qualités qu'il a. Par exemple, il y a des gens très narcissiques, c'est-à-dire... qui une grosse hausse estime d'eux-mêmes, une soif d'admiration, l'impression qu'ils ont toujours raison, une tendance à pas respecter les règles, puisque les règles finalement c'est fait pour les gens.
Les autres.
Voilà. Mais si par ailleurs ce sont des gens extraordinairement doués, eh bien à ce moment-là on les supporte, on se fatigue beaucoup à les supporter, mais on peut parfois les suivre parce que ils ont effectivement souvent raison et ils sont meilleurs que les autres. Donc vous voyez, tout dépend aussi des qualités qu'on a ailleurs. Bon, évidemment, si quelqu'un de très narcissique mais qui n'a pas de talent particulier, il est beaucoup plus difficile à supporter.
Alors, vous pouvez nous appeler, hein, bien sûr, pour témoigner, hein, pour sur les personnalités toxiques ou les personnalités difficiles que vous fréquentez au quotidien, ceux que vous essayez de fuir, ou si vous avez besoin de poser des questions pour savoir comment vous sortir de telle ou telle situation, vous pouvez profiter de l'expertise de François Lelore ce matin, psychiatre qui est avec nous dans Les Experts. Alors, vous parliez de personnalités difficiles. Quel est le seuil, j'ai envie de dire, entre la normalité et la pathologie ?
Mais, si vous voulez, il y a pas. C'est comme si on dirait quelle est la différence entre une taille normale et être trop grand ou trop petit. Vous voyez, il n'y a pas vraiment. On ne va pas dire tiens, c'est un certain nombre de centimètres. Donc il y a. Bon, alors on peut faire des moyennes, mais je dirais que ça varie un petit peu, voilà, entre quelqu'un de taille normale, quelqu'un de d'un peu petit, et puis quelqu'un vraiment de trop petit. Et puis alors il y a bon le nanisme qui est là, qui est différent, qui est lié à des troubles. Donc moi j'aurais du mal à mettre une... Ce qui est important, c'est vous, c'est-à-dire comment, jusqu'à qu'est-ce que vous pouvez supporter. Voilà, c'est ça. Et une personnalité difficile, c'est un peu vous aussi le thermomètre, c'est-à-dire que si ça vous cause, par exemple, prenons l'exemple de personnalité narcissique, bon, si le talent et le côté charmant de cette personnalité narcissique vous le fait accepter, c'est très un petit peu déplaisant, ben, voilà, c'est vous qui allez juger que bon, ça vaut le coup de le garder comme conjoint ou comme patron, comme collaborateur. Mais à un moment, vous pouvez aussi vous avoir votre seuil. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui plusieurs fois a pas respecté les règles, a pas respecté ses engagements parce qu'il trouve que il mérite pas ça, il a le droit de faire différemment des autres. Ben vous pouvez avoir un seuil de tolérance plus bas et dire ben non, ça suffit. Vous voyez, donc il y a pas de normes strictes. Alors après, il y a des personnalités vraiment qui sont vraiment des personnalités pathologiques, c'est-à-dire qui en général, ça se voit, c'est-à-dire qu'ils arrivent soit vraiment à gâcher, enfin à rentrer dans la vie des autres, ou alors à se rendre la vie eux-mêmes très misérable. Parce que là aussi, il y a des personnalités qui sont plutôt difficiles pour les autres, et puis des personnalités très difficiles pour elles-mêmes. Par exemple, les personnalités dépressives, bon, bah, oui, c'est difficile pour les autres aussi. Si on a un conjoint dépressif, c'est vraiment.
Oui, ça doit être difficile pour eux aussi.
Mais la personnalité difficile souffre. Et dans les personnalités difficiles, il y a celles qui le savent bien qu'elles sont difficiles. C'est-à-dire les personnalités anxieuses, les personnalités dépressives, les personnalités dépendantes, vous voyez, qui ont peur de se faire quitter parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne pourront pas se débrouiller toutes seules. Les personnalités évitantes, c'est-à-dire les gens aussi qui fuient un peu le contact parce qu'ils se sentent trop mal à l'aise. Tous ces gens-là, ils ont parce qu'en psychiatrie, ils sont ce qu'on appelle égo-dystonique. C'est un mot compliqué pour dire que vous sentez que vous n'allez pas bien et vous en souffrez, vous le reconnaissez. À l'inverse, c'est les personnalités qui se trouvent tout à fait normales, qui sont un peu plus dures. Alors, c'est les personnalités, par exemple, paranoïaques, les personnalités narcissiques, parfois. Alors, les personnalités obsessionnelles, ça dépend. Il y a des gens qui savent qu'ils sont un peu trop vérificateurs, méticuleux et un peu rigides, et puis d'autres, non, pas du tout, qui trouvent qu'ils ont raison de faire ça, et que c'est les autres, ce sont les autres
qui ont un problème.
Ne sont pas à la hauteur, voilà.
On a une auditrice qui a une question pour vous.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
J'ai une question ou un témoignage peut-être. Bonjour Carole.
Oui, bonjour.
Vous vouliez témoigner, vous vouliez poser une question?
Oui, ben en fait je voulais témoigner également. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Je voulais témoigner et également avoir. J'ai également une question.
Ben, allez-y.
En fait, moi j'ai eu affaire à une personne, effectivement de ce type-là, très. Un peu mytho, un peu pervers, même narcissique. Je sais pas comment vraiment la définir, cette personne.
Mm-hmm. Bon, déjà, vous vous en rendez compte, donc c'est déjà bien.
Je m'en suis rendu compte parce qu'elle m'a bouffé la vue et maintenant, c'est moi qui suis sous antidépresseur.
Mais, non, mais là, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes rendu compte et vous faites tout pour vous en sortir. Donc déjà, c'est bien. Enfin,
oui,
je sais pas, je pars sous couvert de docteur Lelore, mais...
Ouais.
Allez-y, et Carole, excusez-moi.
Alors, ma question, c'était comment... se défaire complètement de ces personnes-là. Parce qu'elles ont tendance à vous harceler, ou faire culpabiliser. Oui, c'est tout à fait le mot. Culpabiliser pour un oui, pour un non, tout vous tombe dessus. Et c'est insupportable, c'est invivable. Donc, comment faire pour s'en séparer une bonne fois pour toutes?
Docteur Lelor.
Écoutez, déjà pour s'en séparer, la première étape, c'est de s'apercevoir, de se dire, ben voilà, avec cette personne, ça n'est plus possible, il faut qu'on se sépare. C'est une décision, parce que face à une personnalité difficile, on peut toujours se dire, ben soit je vais essayer de la gérer, parce que la séparation sera un coût trop important, par exemple, si vous avez un patron narcissique, vous pouvez ne pas le supporter très bien, mais vu la situation du marché de l'emploi, ben vous dire, oui d'accord, c'est dur, mais il vaut mieux que je reste. Et puis un conjoint, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un conjoint, certes, il peut être difficile à vivre, mais il y a un coût de la séparation, sans compter qu'il peut y avoir aussi de l'affection et de l'amour, qui fait qu'on va pas prendre cette décision. Mais il y a un moment, bon, tout le monde a sa limite, et on peut dire, ben voilà, il faut se séparer. Alors là, vous me parlez d'une personnalité, alors, vous dites narcissique, pervers, narcissique. Moi, je me méfie un peu de pervers, parce que pervers, ça veut dire que les gens ont plaisir à vous faire du mal. Et parfois, ben non, les personnalités difficiles vous font du mal, pas par plaisir de vous faire du mal, mais simplement parce qu'elles veulent en faire à leur tête, si vous voulez.
Alors, on va lui faire préciser à Carole. Quand vous dites pervers, narcissique, Carole, pervers, cette personne a vraiment de la volonté de vous faire du mal?
Ah oui, 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 carrément, oui, oui.
Donc c'est un conjoint dont vous nous parlez là.
C'est pas un conjoint, c'est une amie que j'ai voulu aider parce qu'elle avait des problèmes d'alcoolisme.
D'accord.
Et on peut dire de bipolarité, je pense aussi. Donc je l'ai incitée à aller voir un psychiatre. Elle n'a jamais dévoilé son alcoolisme à la psychiatre. Bon, la psychiatre s'en est bien sûr rendu compte, hein. Donc j'ai voulu aider cette personne et après elle a pris le dessus sur moi. Et elle m'a rendu malade. Voilà.
Docteur Lelor.
Ben écoutez, je pense que bon, vous avez déjà fait quelque chose pour cette personne, mais là encore, je répète, c'est à chacun de trouver son seuil. C'est une amie, enfin c'était une amie, donc vous n'avez pas une obligation d'assistance à vie, si vous voulez. Et alors après, ben c'est soit la gérer, mais apparemment vous avez du mal à le faire, puisqu'elle elle avait toujours tendance à prendre le dessus, peut-être avoir une sorte d'emprise sur vous, soit effectivement la rupture. Mais c'est une dame qui a quand même pas mal de problèmes, parce qu'elle est alcoolique, elle est sans doute bipolaire. Donc, je pense que c'est plus qu'une personnalité difficile. Vous voyez, c'est quelqu'un.
Donc là, on est dans le toxique.
Oui, qui a des gros problèmes. Et là, je pense qu'elle est toxique, surtout cette personnalité, pour elle-même aussi. Parce que l'alcoolisme, c'est une vraie maladie. Et puis, alors, la bipolarité, c'est pas simple non plus. Donc, j'allais dire là, à ce moment-là, même pour un psychiatre, si vous voyez, c'est parfois difficile de faire la part entre ce qui est lié à des troubles et de ce qui est lié à la personnalité. Alors, vous, d'après ce que je comprends, ce qui est dur, c'est de gérer peut-être votre culpabilité. C'est-à-dire qu'elle arrive à vous culpabiliser en vous disant...
Ah oui, surtout.
Tu veux tomber, bah oui.
Tu m'abandonnes, oui.
Elle se met en situation victime.
Je te considère comme ma fille, parce qu'on a une grande différence d'âge. Hein. Je te considère comme ma fille, tu réponds pas aux besoins de ta mère. Il y avait une espèce de transfert parce qu'elle est en conflit avec sa fille. Elle a une fille du même âge que moi.
Donc là, on est un peu dans la manipulation aussi, docteur.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a à la fois sans doute de la manipulation, c'est quelqu'un qui s'est joué sur la culpabilité, mais il y a aussi probablement une vraie peur de l'abandon de cette personne qui finalement ben, comptait sur vous, même y compris pour pouvoir un peu vous manipuler. Donc, ça n'est pas facile, vous avez à gérer votre culpabilité. Ce qu'on pourrait conseiller, c'est de dire, ben, mettez des limites. Si vous ne voulez pas vous sentir trop coupable, accepter de la voir de temps en temps, mais en mettant les limites, en lui disant quand est-ce qu'elle exagère, quoique. Ou alors parfois, si c'est impossible, si chaque entrevue se passe mal, eh ben, il faut parfois prendre une décision de se dire, ben non, je ne vais plus voir cette personne.
Voilà. Donc la décision radicale, parfois, on fuit la personne toxique.
Voilà, et il y a un conseil, il y a un moment qu'on dit toujours, ben, à un moment, oui, il y a gérer, mais il y a un moment où il vaut mieux se séparer. Mais se séparer, ce n'est pas toujours facile, parce que ben, certaines personnes n'acceptent pas l'abandon. Et puis nous-mêmes, ben, nous avons parfois de la culpabilité, enfin, surtout quand c'est quelqu'un de la famille.
Exactement, exactement. On culpabilise par rapport à certains dires, à certaines choses qu'elle m'a dites. Elle a toujours fait en sorte de me faire culpabiliser, alors que moi, j'ai fait qu'une chose depuis maintenant une dizaine d'années. Hein, c'était l'aider. parce que la nuit, elle avait des espèces d'hallucinations, parce que ça, je pense que c'était dû à l'alcool plus le mélange des médicaments, parce qu'elle prenait des médicaments, hein. Elle voyait des gens dans le jardin qui lui volaient sa voiture, des trucs comme ça, donc à 2h du matin, elle me réveillait, « Carole, viens, viens, il y a des gens qui volent la voiture », enfin, des délires, quoi, des délires mystiques, oui. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça.
Donc là, clairement, pour Carole, on a envie de lui dire fuyez, quoi.
Oui, c'est-à-dire que là, disons que la personne dont vous parlez, elle a vraiment besoin d'aide, elle a besoin certainement d'un traitement médical, d'un suivi psychologique, voire peut-être d'une hospitalisation de temps en temps. Donc, c'est un gros problème. Bon, c'est pas un parent proche, donc vous n'avez pas exactement d'obligation de vous en occuper. Mais il faut peut-être, c'est peut-être à vous de gérer votre culpabilité. Et pour cela, j'allais dire, il faut peut-être aller voir un confrère, une psychologue ou un psychiatre. Parce que, enfin, nous voyons tous pas mal de gens qui viennent nous parler d'une personnalité difficile qu'ils ont beaucoup de mal à gérer. Et parfois, effectivement, on peut les aider en essayant de comprendre ce qui leur pose problème dans la gestion ou dans la rupture avec cette personnalité difficile. Et donc parfois, ben, on est aussi là pour les aider parce que ben, c'est un grand poids, un grand stress dans la vie d'avoir une personnalité difficile qui vous cause un peu de la souffrance.
Vous le dites d'ailleurs dans la préface de votre livre, docteur, que vous avez souvent des personnes qui viennent vous consulter, que au bout d'un petit moment, elles vous décrivent une personne de leur entourage, que ce soit un parent, un conjoint, un collègue, qui leur cause ces difficultés épuisantes jour après jour, et en final, elles viennent vous consulter pour ces personnes-là, quoi.
Oui, mais c'est une cause de consultation. Alors nous, évidemment, on essaie toujours de vérifier si c'est la situation, je veux dire, si c'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité difficile ou si c'est pas simplement un conflit, parce que par exemple dans un divorce. En général, un divorce qui se passe mal, les gens ont tendance à trouver que le conjoint dont ils veulent se séparer est un horrible pervers narcissique, paranoïaque, etc. Et parfois, non, ça n'est pas vrai, c'est simplement...
Ça arrive, mais...
Ça arrive. Ça arrive aussi, mais il arrive aussi que, bah oui, comme ça se passe très mal, comme les émotions de colère, d'hostilité, de ressentiment sont au maximum, les gens ne sont pas à leur meilleur, et on a tendance, dans un conflit, à voir l'autre, évidemment, comme quelqu'un d'affreux, qui ne nous comprend pas. Donc, ça demande aussi de l'aide, hein, que ce soit une personnalité difficile ou un gros conflit avec quelqu'un, on a parfois besoin d'aide. Mais je veux dire cette précaution entre les personnalités difficiles vraiment, et puis les gens simplement avec qui on ne s'entend pas dans une situation particulière, comme un divorce.
Bon, du coup, Carole, peut-être fuyons, j'ai envie de dire.
Oui,
parce que pour vous...
je pense que c'est la solution à
faire. Et peut-être faites-vous aider. Faites-vous aider, parce que c'est pas si facile. Il y a un lien qui construit avec cette personne.
Mais ouais. Disons que moi je sais analyser ma personnalité à moi. Moi, je suis une ancienne assistante sociale. Donc,
donc vous avez l'empathie qu'il faut, on l'entend. Hein.
Voilà, empathie, vous avez prononcé le mot important, empathie, vous avez de l'empathie.
Et si vous voulez, par rapport à la relation d'aide que j'avais avec cette personne au départ, nous avons travaillé au même endroit, ça s'est transformé petit à petit en amitié, et après j'ai appris à découvrir cette personne et ses défauts. Je parle de défauts parce que je ne veux pas dire de toxicité, c'est un mot trop fort pour moi, quoi.
Pour l'instant, mais vous y arriverez peut-être un jour.
Oui, j'y arriverai un jour. Mais je pense que vous avez raison, Fillon.
Bon, ben voilà. Et puis surtout, vous nous tenez au courant.
Oui, ben merci beaucoup.
Merci, Carole, et bon courage. Hein.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée, à bientôt. Si vous voulez témoigner, si comme Carole, si vous avez une personnalité difficile ou toxique dans votre entourage, si vous avez besoin de conseils pour savoir s'il faut composer ou s'il faut fuir, eh bien vous pouvez nous appeler. Carole vous accueille au standard 04 95 32 22 22. Et moi, je lis tous vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Jamie. da tracciada, ogni a luna c'è il dubbio al tu sciappare. Mi ne ho da cantare queste disordine. Queste disori già si giù spera il cuore del nida. Scendo qua su onde ucevo turchino, dove passo lo so, l'onda dice cudempo di no, messaggero divino, chi la monda niea, un mondo più felice, quanto visto l'ovo, chi gira c'è il mondo, pacenia di sera, chiesa dolce, navre con fiume furioso, chi la vita risponde, e l'immensa luce sa di un fiore di sapere. Mi ne ho da contare queste disori, ti assi di un sperare, vuole la vita. Mi ne ho da contare queste disori, ti assi di un sperare, vuole la vita. Luci illuminati dagli orli d'aprile, stati d'amore, carichi da giadezza, cui cori infuriati, da un sintimo sottile, da parte da terra e ai sovellezze, con l'uomo incatenato, più di stellaria, allora chi a notte stende usore, a me cu sogno strappato, in cerca d'armonia, di sciocchi di adua verso l'alba chi ci ama.
Alba Minewogu.
À partir du 10 décembre et pendant toutes les fêtes de fin d'année, jouez avec les commerçants de Haute-Corse. Plus de 1000 bons d'achat vous attendent dans vos commerces de proximité. Jouez et tentez de gagner vos cadeaux de Noël et votre réveillon de la Saint-Sylvestre avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse. Cette année, pour les fêtes, j'achète ici.
Vous êtes travailleur indépendant ? À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes. Seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite, et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur sécu-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel.
Retrouvez le magazine des îles et de la Méditerranée sur RCFM. Méditerradio avec Rai Sicile, Rai Sardaigne, chaque samedi de 14h à 15h.
La météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
On jette un petit coup d'œil du côté du temps. La matinée est largement ensoleillée. L'après-midi, le soleil se cache quelque peu derrière des nuages un peu plus nombreux ou un voile de nuages élevé. Mais le ciel restera lumineux. L'après-midi, en fin de journée, vent d'ouest modéré dans le Cap Corse avec des températures maximales comprises entre 10 et 13 degrés et 16 degrés sur la plaine orientale. On jette un petit coup d'œil pour demain. Le ciel sera hésitant avec des nuages entrecoupés d'éclaircies. Et puis la nuit, plus neige se situera vers 950 mètres au petit matin. Puis elle s'abaissera jusqu'à 700 mètres. Ensuite, pour les températures maximales pour le jour, autour de 11 à 14 degrés sur le pourtour du département. Pour les minimales, autour de 5 à 8 degrés. RCFM, il est 10h. point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec de l'agitation ce matin à Ajaccio, devant les établissements du secondaire. Ilitch et Anigours bloquaient l'accès aux établissements, Fèche, Laetitia, Les Salines et les Saint-Paul. Une action de soutien aux 11 jeunes qui ont été interpellés en début de semaine dernière, en début de semaine lundi en fait, dans le cadre d'une enquête sur des attentats commis en début d'année. Attentats qui avaient notamment visé des résidences secondaires juste avant la venue dans l'île du président de la République en avril dernier. Hier soir, il y a eu une mobilisation devant le commissariat de Bastia, devant la sous-préfecture de Corté. 200 personnes environ se sont rassemblées. À noter que sur les 11 jeunes interpellés lundi, 10 auraient été transférés ce matin sur Paris par avion spécial. Une aurait été remise en liberté. La réforme des retraites, elle commencera à s'appliquer avec la génération 75 en 2025. Elle concernera ceux qui auront 50 ans au 1er janvier 2025. La date aurait été actée cette nuit par Emmanuel Macron après 2 ans de concertation, 6 jours de grève et de manifestation. Le Premier ministre dévoilera à midi devant le Conseil économique, social et environnemental sa réforme des retraites. Franck Rastoul, le procureur général près la cour d'appel de Bastia, quitte la Corse, direction le parquet général de Toulouse. Il sera remplacé par Jean-Jacques Fanny, ancien procureur de la République de Bastia, entre 2006 et 2010. Retour dans l'île pour lui et prise de fonction le 6 janvier. Le sport en volley, belle victoire, nette victoire du GFCA qui a battu les Suisses d'Amiresville, 3-7-0 hier en 16e de finale de la Coupe d'Europe. Le match a duré un peu plus d'une heure, à peine plus d'une heure. Match retour le 18 décembre en Suisse. Le Gazélec est sur la très très bonne voie pour accéder aux 8e de finale. Et puis en foot, il n'y aura pas de supporters lensois samedi à Timisoara pour l'affiche de la 18e journée. Assez à Lens, la préfecture a pris cet arrêté interdisant le déplacement des supporters lensois en raison de relations tendues entre les groupes de supporters des deux équipes, et cela depuis les rencontres des saisons passées.
Merci Didier, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Vous êtes travailleur indépendant ? À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes. Seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite, et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur sécu-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel.
E questo. Ma sapete perché Giacomo Cusina l'ha scritto? Quando, in che contesto? Ogni canto ha una storia che lo porta. Allora scopriamolo insieme.
Un giorno una canzone e tutti gli giorni non perci e fai.
RCFM, Christina Luzzi, les experts.
Bonjour et bienvenue si vous nous voyez dans Les Experts. On parle ce matin des personnalités difficiles, des personnalités toxiques. Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut composer? Et pour cela, je suis en compagnie de François Lelor, psychiatre qui a coécrit avec Christophe André « Comment gérer les personnalités difficiles » aux éditions Odile Jacob. Alors, vous pouvez nous appeler, bien entendu, 04 95 32 22 22. Carole vous accueille au standard et vous pourrez comme ça poser toutes vos questions ou vous demander des conseils, justement, sur ces personnalités qui vous entourent et qui nuisent à votre santé quelque part. Docteur, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le cas de Carole qui témoignait avant la pause. On voyait vraiment de la souffrance dans ses propos et elle disait « J'ai appris à découvrir cette personne ». Elle disait que ça fait 10 ans qu'elle l'a fréquentée. Est-ce qu'on peut voir en début de relation des petits détails qui peuvent nous dire qu'on est en présence d'une personnalité toxique pour pas avoir arrivé justement au bout de 10 ans et se dire « Mince, j'ai perdu 10 ans, quoi ».
Oui, souvent, ça dépend des personnalités, mais souvent il y a des petits signes qui devraient nous prévenir, mais quand on est dans une attitude de confiance ou qu'on est en train de créer une relation, on les remarque pas, on les remarque qu'après coup. Par exemple, les premiers signes, ça peut être en cas de conflit, un petit conflit, et voir si la personne en face est capable de, comme on dit, de mettre de l'eau dans son vin ou de considérer votre point de vue, ou si elle reste, au contraire, absolument centrée sur son point de vue et qu'elle refuse toute concession. Il y a aussi le comportement avec les autres. Par exemple, si certaines personnalités narcissiques, je trouve que parfois un signe quand on va
prendre, on va au restaurant avec elle, on va dans différentes situations où il y a du monde, comme on dit, et bien de voir comment elle traite les autres. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui traite assez mal ou de manière un peu hautaine et un peu sèche le personnel de service, ben pour moi, c'est un signe qui devrait allumer un peu les signaux d'alarme.
C'est vrai que des fois, en début de relation, je rebondis sur vos signaux d'alarme, mais des fois, on en a en début de relation et on n'en fait pas forcément cas.
Non, voilà, on s'en souvient après coup, on dit tiens, c'est vrai, j'aurais dû me souvenir que. Ou aussi, ben, les antécédents. Mais c'est vrai, dans les recrutements, évidemment, normalement, les gens chargés de recrutement, de ressources humaines, ils essaient de voir la biographie pour voir si, par exemple, elle a été marquée quand même par beaucoup de ruptures, de changements d'emploi dont on a du mal à comprendre les motivations. Enfin, tout ça qui donne des indices. Donc, bien sûr, il y a des petits indices, mais qui ne sont pas toujours évidents parce que bah, les gens peuvent avoir des côtés très sympathiques par ailleurs. Par exemple, bah, une personnalité dépendante bah, peut finalement assez vite s'attacher à vous, avoir des côtés très sympathiques, très touchants. Et vous allez vous apercevoir un petit peu tard qu'il faut toujours être là pour la soutenir, par exemple. Donc oui, vous l'avez. C'était peut-être visible au début, mais il y avait d'autres aspects de la personnalité sympathique qui vous ont masqué en fait le problème à venir.
Et puis quand on est vraiment en présence, on va parler hein, de tous ces traits de caractère et de ces personnalités, mais quand on est vraiment en présence d'un pervers manipulateur ou d'un pervers narcissique, il arrive à revêtir, je dirais, une figure qu'on a envie d'avoir en fait.
Voilà,
il arrive à masquer. Donc comment est-ce qu'on peut voir à ce moment-là un petit détail, quelque chose qui peut nous faire dire waouh, attention, je me casse quoi.
Alors oui, voilà, en général, les personnalités narcissiques souvent sont d'assez bons manipulateurs, c'est-à-dire ils savent un peu jouer sur d'abord par susciter votre admiration, ils ont souvent du charme, et puis après parfois ben, vous avoir une sorte forme d'autorité, ou au contraire arriver à vous culpabiliser, enfin ou à jouer au contraire de la proximité, on est dans le même bateau, allez, on fait ça tous ensemble. Donc là, la manipulation, ben, c'est plus difficile puisqu'ils sont, c'est un peu leur une de leurs caractéristiques. Alors là encore, il faut s'être peut-être d'une certaine manière fait avoir un certain nombre de fois pour se dire ben tiens, attention, là je suis en train de me faire séduire et manipuler par quelqu'un. Je parle y compris du point de vue professionnel. Mmh. Alors moi je mets une note parce que on dit toujours pervers. Alors pervers, ça sous-entend que quelqu'un a une certaine jubilation à vous faire du mal. Et je dirais, beaucoup de narcissiques ne sont pas spécialement pervers, simplement ils ont envie de faire exactement les choses comme ils veulent, et donc, au passage, ils vous font souffrir, évidemment, parce qu'ils ne vont pas tenir compte de vos besoins, ils vont un peu vous tromper, vous écraser, mais ce n'est pas en soi vous tromper ou vous écraser, ça ne leur donne pas un plaisir particulier, ce qu'ils veulent simplement, c'est arriver à leur fin. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnalités narcissiques comme ça. Mm-hmm. Le pervers, c'est une dimension de plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a plaisir à vous mettre mal à l'aise, à vous faire souffrir, à vous mettre en déséquilibre, pas simplement pour arriver à ses fins, mais en gros, pour qu'il se sente bien, il faut que vous vous sentiez mal. Hein? Je dirais que c'est un peu la différence entre quelqu'un qui vous bouscule et qui vous casse la figure pour vous prendre votre portefeuille, mais au fond, il n'a pas spécialement plaisir à vous casser la figure, mais il voulait votre portefeuille. Et le pervers, c'est un peu différent. Il veut votre portefeuille, mais ça lui fait plaisir de vous voir tomber et avoir mal. Vous voyez. Mmh. Mais parfois, on confond pervers et pervers narcissique.
Mais on va revenir parfois sur ces caractéristiques. Je vous propose qu'on accueille un auditeur qui a un témoignage.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, vous vouliez témoigner.
Oui, enfin, comme je vous faisais appel à des témoignages.
Mais oui, comme tous les jours. Je sais que vous êtes un fidèle auditeur.
Voilà. Bon, ben moi, j'ai subi ce genre d'événement avec une personne charmante, un homme que je pensais être mon meilleur ami. Et puis ça a fini par une séparation avec mon épouse. Voilà. Donc c'est quelqu'un de charmeur, certainement pervers aussi, le plaisir d'aller casser des couples, parce que je n'étais pas le premier, évidemment.
Ah ben oui.
Et souvent, ces gens-là s'en prennent à des gens un peu faibles, un peu naïfs, comme je le suis. Je reconnais que je suis un petit peu naïf, je fais confiance trop facilement, et c'est facile de nous berner. Ces gens-là sont de très bons acteurs, de très bons menteurs.
Et vous vous en rendiez compte au fur et à mesure que la relation avançait, Philippe, ou vous en êtes rendu compte vraiment au moment de votre séparation?
Ah bah j'ai mis 10 ans à comprendre quel était son but. Et donc il a fallu qu'on me mette les points sur les i pour que me rende compte que c'était vraiment un pervers narcissique, prédateur, mais ceci dit quelqu'un de très d'un contact très agréable. En général, ce sont des personnes assez charmantes physiquement et qui en usent et en abusent. Même son épouse le qualifiait de pervers narcissique.
D'accord. François Lelore, je rebondis sur vos propos, Philippe Legendre, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe, c'est 10 ans. Il y a souvent ce 10 ans qui revient, alors là, dans le témoignage de Philippe, tout à l'heure dans le témoignage de Carole. Et quand j'ai préparé cette émission, je l'ai souvent retrouvé, ce 10 ans. C'est pourquoi? Enfin, on peut mettre 10 ans à se rendre compte qu'une personne est toxique. Parce que là, en l'occurrence, on est vraiment en présence d'une personne toxique également.
Oui, bien sûr, on peut mettre du temps. Ben d'abord parce que dans le cas des narcissiques, ce sont souvent des gens assez charmeurs et assez charmants, il faut bien le dire. Donc, ils le savent et que pour eux, j'allais dire, c'est un peu leur outil de travail ou leur arme favorite, c'est de vous charmer, c'est de vous séduire. Et certains ont même un grand charisme, si vous voulez. Donc on peut tomber dans ce charisme et devenir un petit peu dépendant d'eux. Donc c'est assez normal. Puis alors, ça dépend de l'intensité du lien. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous êtes marié à quelqu'un, le coût d'une séparation est considérable. Donc on ne veut pas voir la réalité trop tôt, parce que ça impliquerait de se séparer, ça impliquerait des choses très très lourdes. Donc on a tendance à s'aveugler soi-même, à mettre ça de côté, à dire oui mais ça ira mieux, bon là il était stressé, ou alors l'autre après peut se repentir, ou faire mine de se repentir, d'écoute plus jamais, etc. Donc ça n'est pas facile, enfin on est... dès qu'un lien se crée, si vous voulez, j'ai l'air qu'il y a que les psychopathes qui sont capables de rompre un lien instantanément et sans problème.
D'accord. Philippe, du coup, comment vous avez fait à vous en défaire de cette personne toxique, puisque en l'occurrence, vous, comme le décrivez, c'était vraiment quelqu'un de toxique?
Ah ben, j'ai coupé les ponts en vidant mon sac. Voilà, je lui ai écrit des SMS très très agressifs. Hein, et puis voilà, on n'en a plus de contact. Ensuite,
et vous avez coupé net.
Quelques temps avec, et puis. Et puis ça a foiré aussi. C'est vraiment des gens particuliers. Bon, il y avait une première alerte 10 ans avant, et il m'avait remis en confiance en me disant non, t'inquiète pas, il s'est rien passé. Ils sont très vraiment très très bons. Ce sont d'excellents commerciaux et
comédiens aussi.
Managers souvent. C'est des gens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont qualifiés de pervers narcissiques. On entend parler parfois de Sarkozy, d'autres de Napoléon, qui sont parfois même associés à des bipolaires.
Alors je dirais quand même qu'il faut faire attention à ne pas surdiagnostiquer.
Oui, voilà, chacun son métier. Hein.
C'est vrai que c'est souvent galvaudé.
Oui, et en particulier les gens exceptionnels, parce que disons, c'est vrai que par exemple, pour vouloir devenir président de la République, il faut gérer une très grande estime de soi. Il faut vraiment penser qu'on le mérite. Donc, il faut forcément une dose de narcissisme.
De traiter de pervers, quand même.
Je trouve que rajouter l'étiquette pervers, c'est aller trop loin.
Oui, c'est vrai que c'est souvent associé à tort. Non, c'est vrai.
On associe souvent narcissisme et pervers narcissisme, alors que c'est pas forcément la même chose, parce qu'on peut peut-être, enfin, je pars toujours sous couvert du docteur Lelore, mais on peut peut-être composer avec une personnalité narcissique tant que.
Oui, absolument.
Mais avec un pervers narcissique, pour le coup, ou un psychopathe, il vaut mieux fuir, parce que ce sont des personnes effectivement très douées en manipulation.
Oui, c'est ça, mais comme on dit, le pervers, il se sent bien que lorsque vous vous sentez mal. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de gestion possible, il n'y a pas de donnant-donnant. Et demain, avec les personnalités dites psychopathes, sont des gens quand même qui n'ont aucune empathie et qui ne visent que leur intérêt. Donc, c'est très difficile à gérer, puisqu'il n'y aura jamais de réciprocité. Tu vois, il y a des degrés, hein, il y a des gens un peu psychopathes, mais qui sont capables de maintenir certaines relations. Et puis d'autres, il y a des grands psychopathes, effectivement, qui même auront une vie chaotique, parce qu'ils n'arriveront jamais à maintenir des relations stables.
Bon, pendant ce temps, ils font du dégât sur leur chemin. Enfin.
Voilà. Mais nous avons tous à gérer des gens peu ou prou narcissiques, mais qui ne sont pas forcément des pervers, et qui ont des qualités et du charme par ailleurs. Quoi. Mais si vous voulez, comme là encore, c'est vous qui êtes le thermomètre d'une certaine manière, et qui vous dit, est-ce que cette personne, chez moi, que ce soit un patron ou un conjoint, a tellement de charme, de charisme, de bon côté, hein, par exemple, je sais pas, un conjoint, il est entreprenant, il conçoit des loisirs, des vacances extraordinaires, enfin, il est très sociable, bon, certes, il veut toujours être le roi de la fête, un peu, mais bon, est-ce que tout ça fait que, je l'aime quand même, et bon, même son côté parfois très égoïste me fatigue, mais je vais gérer ça. Ou est-ce qu'à un moment, pour différentes raisons, vous ne supportez plus ça, vous ne supportez plus que ce soit le roi de la fête, vous ne supportez plus ces manifestations d'égoïste. Là, c'est un petit peu à vous de sentir ce qui est acceptable ou pas. Ça dépend d'ailleurs en général aussi de ce que vous avez vécu dans le couple de vos parents, par exemple.
Voilà, il faut aller un petit peu chercher un petit peu avant, faire un petit coup dans le rétro, comme on dit. 10h16 sur RCFM, je crois que j'entends quelque chose qui arrive.
Alors, tes cadeaux.
04 95 32 22 22. Je vous le dis, j'ai ouvert la case avant vous. Et ce sont des jouets pour des petits-enfants. Alors, si vous avez des petits-enfants, des enfants en bas âge, vous nous appelez. Et le premier ou la première au standard remportera tous ces cadeaux. Ça sera tout de suite après Lady Gaga. Always remember her this way.
Catch on fire, it's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye,
Remember Her This Way, Lady Gaga, Bradley Cooper sur RCFM.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Et vous avez fait exploser le standard. Je vous remercie, vous êtes nombreux à nous écouter tous les matins et à attendre le petit jingle pour ouvrir la case du calendrier de l'Avent. Mais j'ai triché ce matin, je l'ai ouvert avant vous. Mais c'était bien comme ça, on a pu adapter le cadeau. Et en plus, c'est bien tombé parce que le premier auditeur, je dis le premier parce que d'habitude, ce sont des mamans. Et là, c'est un papa. Bonjour Marc.
Bonjour.
Je suis ravie.
Ah, je suis heureux, c'est gentil.
Je suis absolument ravie. Bon, j'ai un petit peu triché ce matin, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, j'ai dit comme ça, si je peux orienter nos auditeurs, eh bien voilà, je suis ravie d'avoir pu le faire.
C'est gentil.
Alors, je vous dis ce que vous avez gagné.
Avec plaisir.
Alors, vous avez gagné un chariot Crazy Rabbit de la marque Jeannot, en partenariat avec Jeannot, justement. C'est un jouet qui va évoluer en même temps que votre enfant. C'est pour, ça va accompagner quelque part ses premiers pas et puis il pourra jouer après avec.
C'est formidable, il a eu 2 mois hier.
Ah, ben voilà, donc il fera ses premiers pas avec ce petit chariot. Ensuite, un lot de poupées tendresse de Calou. C'est des poupées qui sont toutes douces.
Oui, je connais.
Voilà, donc je pense que ça ravira aussi. Et pour pour ceux qui sont un petit peu plus grands, un manège en métal qu'on a trouvé à la boutique Basse à Paris. C'est une boutique qui fait du jouet traditionnel mais aussi du jouet actuel. C'est un jouet en fer blanc qui est fabriqué vraiment dans la plus pure des traditions des jouets en métal par la famille Wagner. Et donc c'est ce qu'on vous offre ce matin. Et puis en plus, je vous rajoute un petit ticket pour participer à notre tirage au sort de vendredi pour gagner une nuit pour 2 personnes au Sofitel de Portici en petit déjeuner.
Bah, ce serait génial.
Bah, vous êtes gâtés ce matin.
Ah oui, gâtés, merci beaucoup.
Vous êtes content?
Heureux, heureux, très, très content.
Super, merci comment s'appellent vos enfants?
Alors, le grand s'appelle Ethan et le petit s'appelle Victor.
Bon, ben, on fait de gros bisous à Ethan et à Hector. Et puis de bonnes fêtes si je ne vous ai pas vendredi, parce que peut-être qu'on vous rappellera vendredi.
Avec
si vous avez gagné.
C'est parfait, merci beaucoup.
Merci beaucoup Marc, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Ça fait toujours plaisir de gâter les auditeurs. Je suis très contente. Alors, on va continuer à parler de notre sujet du jour dans les experts, de personnalités difficiles. Est-ce que ce sont forcément des personnalités toxiques? Est-ce qu'il faut composer? Est-ce qu'il faut les fuir? On parlait de pervers narcissiques avant avec Philippe. Si vous voulez témoigner, vous pouvez nous appeler. Il reste quelques minutes d'émission, 04 95 32 22 22. On voyait encore la souffrance, hein, docteur Lelor, avec dans le témoignage de Philippe. Il disait des choses assez, je dirais, qu'on peut observer chez ces personnalités-là. Il dit que ce sont des personnes qui sont assez fiables au premier abord. Ce sont des personnes aussi qui font le vide autour pour mieux attraper leur proie. Vous pouvez constater ça dans votre cabinet?
Oui, alors ça, c'est quand même une personnalité difficile, j'allais dire plus toxique. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont effectivement tendance à développer une relation d'emprise en cherchant à isoler. Ça se voit aussi, par exemple, chez les personnalités paranoïaques très, très jaloux. Les grands jaloux veulent en général isoler leur conjoint, veulent éviter qu'il ait des amis, des occasions de sortir. C'est pas si fréquent le désir d'isoler les autres. Et alors il y a aussi certaines personnes narcissiques qui veulent une admiration totale et qui veulent éviter évidemment que d'autres dans votre entourage essaient de vous dissuader ou de vous décourager de continuer avec elles.
Donc du coup, quand on est en présence d'une personne comme ça qui essaye de faire le vide autour de vous, parce qu'ils font ça en général en tout début de relation, là il faut fuir par contre, docteur.
Oui, c'est très mauvais signe. Alors bon, bien sûr, parfois on rentre dans une relation, puis il se trouve que les amis de l'autre ne nous plaisent pas tellement, et puis nos amis ne lui plaisent pas tellement. Ça, c'est d'ailleurs en général pas un bon prédicteur pour la relation, d'une manière générale. Mais parfois, il y a une vraie volonté d'isolement, et là, on est plus effectivement, peut-être du côté, il faut bien le dire, des pervers narcissiques. Et ça, vraiment, c'est un très mauvais signe. Il faut quand même se dire que son réseau d'amis, enfin son amitié, ça fait un peu partie de nous, c'est notre soutien dans la vie. Donc quelqu'un qui essaie de détruire ça, a priori, ne veut absolument pas votre bien.
Bon, amis et famille, hein, pour le coup.
Oui, bien sûr, voilà.
Quelle est la frontière entre une personnalité narcissique et vraiment un pervers narcissique?
Je reviendrai toujours à cette idée, c'est que le narcissique, il peut vous faire souffrir parce qu'en gros, il ne pense qu'à lui. Et à ce qu'il mérite, évidemment, plus que vous, et il n'est pas censé respecter les règles, et il veut une perpétuelle soif d'admiration, il veut toujours plus, et donc, effectivement, parfois à votre détriment. Mais dans le pervers, alors il va vous faire souffrir, mais c'est pas son but de départ. Son but, c'est d'avoir toujours plus. Alors que dans la notion de pervers, il y a l'idée vraiment de gens qui ont une douce satisfaction, voire même une jubilation, à vous voir vous sentir mal, c'est-à-dire à voir qu'ils ont le contrôle sur vous et que vous êtes mal à l'aise, souffrant, culpabilisé, humilié, etc. Et c'est de ça dont ils vont se nourrir, si vous voulez, ils se nourrissent un petit peu de votre malaise et de votre souffrance. Donc c'est assez différent, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose de vous faire souffrir parce que on veut toujours plus et de vous faire souffrir parce que finalement il y a un plaisir à vous voir souffrir.
Mmh. On a une auditrice qui souhaite apporter un témoignage.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Baptistine.
Bonjour. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. J'ai écouté jusqu'au début le docteur. Merci docteur. Mais vous savez comment on dit chez nous en Corse, on est un peu leur chose jusqu'à la fin, jusqu'à lorsque ils sont sur terre. Hein, parce que tout ce que vous avez dit, et ils vont plus loin. Bon, on peut pas faire autrement parce que il y a des enfants, il y a des petits enfants, mais c'est exactement tout ce que vous avez dit. Ils se relie même avec des gens de la famille, les frères, les sœurs, bon, qui sont un peu comme eux, hein, parce que frères et sœurs, ils comprennent quand même qu'ils ont en face quelqu'un de négatif. Lorsqu'on touche à votre famille, la famille, c'est la racine, donc on ne doit pas trop leur donner de l'importance. Mais c'est vrai ce que vous avez dit, docteur, il faut vraiment que vous tombiez. Donc ils sont prêts à donner à votre entourage tout ce qu'ils veulent pour montrer aux autres et vous pour vous écraser.
Donc voilà, ça sent le vécu, Baptistine. Hein.
Ce qu'on vit, et si on va s'éloigner, non, malheureusement, on peut pas s'éloigner parce qu'on a on a mis au monde des enfants, on a des petits-enfants, mais c'est vrai, le pervers narcissique, il faut que vous fréquentiez personne, il faut que vous tombiez, quoi, il faut que vous partiez de la surface. Mais on est c'est chose à vie. Voilà, merci docteur, c'était très intéressant.
Merci pour votre témoignage, Baptiste.
Vous savez, on a du mal à se remettre et à se reconstruire. Et bon, on dit bonjour, mais bon, vous n'avez pas en retour le bonjour, c'est sûr, lorsque vous vous trouvez avec vos enfants ou vos petits-enfants. Ils ramènent tout à lui et vous, il faut que vous tombiez chaque fois, il faut que vous sortiez de la circulation. Et avec la famille, avec les frères ou les sœurs, il a fait pareil. Hein, et c'est bête que la famille me suit, quoi, parce que c'est des gens qui sont comme eux. Je vous remercie, docteur, de faire votre travail en conscience, voilà, et de dire les choses vraiment, qu'on vit vraiment très dur, et on se relève quand même.
Allez, courage, Baptistine. Hein.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, merci pour votre témoignage. On sent beaucoup de souffrance hein, dans tous ces témoignages. Elle parlait de reconstruction, Baptistine. Justement, comment est-ce qu'on se reconstruit rapidement? Il reste 3 minutes d'émission. Comment est-ce qu'on se reconstruit quand on a eu affaire à une personnalité comme ça, surtout quand ça dure depuis des années?
Mais en général, c'est en nouant des relations positives avec d'autres personnes ou en se reposant sur les gens avec qui on a des bonnes relations et qu'on avait peut-être malheureusement mis un peu de côté tellement on était absorbé dans sa relation avec la personne toxique. Donc c'est quand même souvent par les autres, si vous voulez, qu'on se... Là, j'allais dire, on est un peu détruit ou en tout cas bien abîmé par quelqu'un, et la plupart du temps, c'est par les autres qu'on se reconstruit. Donc l'important, justement, c'est de ne pas rester isolé. Ça, c'est
de
ne
pas rester isolé, peut-être d'essayer de reproduire encore le même schéma.
Aussi, et là, évidemment, parfois on a besoin d'aide, il faut quand même aller voir un professionnel, un psychologue, un psychiatre qui va un peu essayer de voir avec vous comment vous avez pu tomber dans une relation aussi toxique. Vous vérifiez que vous n'êtes pas vulnérable au point de retomber à nouveau dans une nouvelle, et puis effectivement qui va vous aider à vous reconstruire une estime de vous-même, et souvent qui passe quand même par des relations positives avec les autres.
Voilà. Pour conclure, docteur, en 30 secondes, on peut donc composer avec des personnalités difficiles en fonction justement de notre... On est notre propre thermomètre, j'ai envie de dire, mais on fuit complètement les personnalités toxiques.
Voilà, il y a un degré, bon, il y a des personnalités dont il faut se dire, ben non, la meilleure solution, c'est la fuite.
La meilleure solution pour moi, quoi, il faut être égoïste un petit peu.
Voilà, c'est la fuite, parce que autrement, je vais peu à peu me réduire, enfin, me muser, m'éroder, et la meilleure solution, c'est la fuite. Et puis autrement, ben, il y a des personnalités, pour différentes raisons, c'est qui sont difficiles à quitter. Elles ont aussi des points positifs, donc là, effectivement, il faut essayer de les gérer.
Merci beaucoup, François Lelord, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous qui avez témoigné. Vous pouvez retrouver, bien sûr, cette émission en podcast sur notre site internet France Bleu RCFM. Et n'hésitez pas non plus à la commenter sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.